Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Vous savez, ce qui est important dans la lecture, c'est bien évidemment prendre la mesure du livre, s'attacher aux personnages, s'attacher à des situations, à une histoire. Moi, j'aime beaucoup les sagas parce qu'elles se prolongent dans le temps, parce qu'on suit la vie des gens, parce qu'on s'y attache et l'on fait face à plusieurs épisodes de leur vie au travers du temps, des années, parfois des siècles. Les sagas, c'est ça, ça s'allonge dans le temps, ça vit dans le temps avec les personnages. Le livre que je vous propose aujourd'hui, j'espère qu'il vous rendra heureux parce que c'est un joli livre, c'est une belle histoire de famille, c'est une saga, comme je les aime, dans une belle région de France qui est le Lot, le Quercy, et puis qui nous emmène aussi un petit peu partout ailleurs au travers d'une époque assez large de 1900 à 1945. Pour nous parler de cet ouvrage, un auteur sans doute que vous connaissez, que vous avez déjà lu, elle n'en est pas son premier essai, loin de là, elle est entre autres l'auteur des Bélangers. Elle a cette élégance, ce raffinement, cette intelligence de l'écriture et savoir toujours nous fasciner, nous intéresser au-delà de ces régions, parfois de l'Alsace, mais là elle a ancré, elle a emmené ses bagages dans le Lot et dans le Quercy. Bonjour Geneviève Sanger.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier roman, Le bonheur est au fond des vallées, aux éditions Kalman Lévy. Alors, on va un petit peu vous présenter, même si ça n'est plus forcément nécessaire. Qui est Geneviève Sanger?
qui est difficile.
Une grande romancière déjà.
Une femme qui écrit.
Voilà, une grande romancière, vous êtes déjà...
Le terme de romancière.
Oui.
Beaucoup plus qu'autrice, par exemple.
Oh là, c'est atroce, c'est atroce.
Ça me définit assez bien.
Oui,
vous êtes... J'aime la fiction, j'aime plonger dans le rêve.
Oui.
Écrire, c'est finalement se laisser porter par un rêve.
Tout à fait. Et puis, pour moi, vous êtes une belle romancière, voilà, qui apporte toujours de belles choses à l'écriture, et à votre écriture et à vos livres. Alors... Donc là, le livre, une partie du livre, on va dire, c'est une saga, hein, je le disais, qui nous emmène de 1900 à 1945, dans cette belle région, entre autres, du Lot et du Quercy. Vous avez plutôt écrit sur l'Alsace, mais là, je disais, vous avez emmené vos valises pour ce roman dans cette belle région. Alors, l'un des personnages, qui est Joseph Beer, qui a fait sa carrière, qui a fait fortune aux États-Unis, rentre avec sa fille Marigold pour rentrer chez lui parce qu'il est à la retraite, il a beaucoup travaillé et il veut enfin se poser. Parlez-nous de Joseph Beer.
Ah, Joseph Beer, c'est un personnage
que j'aime
beaucoup.
Ah oui, oui.
Vous en doutez.
Ah oui.
D'abord parce qu'il a un secret douloureux.
Oui.
Et qu'il a une quête, il est dans une quête de douceur de vivre,
ouais.
Et surtout il est dans une quête de quelque chose, de faire du bien, de réparer cette faute qu'il a commise quand il était enfant, dont je ne vais pas parler.
Et non, faut laisser découvrir, voilà, tout à fait.
Mais il est dans cette quête de la paix et d'une terre où vivre, où faire le bien. Et je pense qu'en l'écrivant, je me suis souvenue de Jean Valjean, qui est le héros des Misérables, comme vous savez.
Oui.
Et j'avais relu cette en le confinement, de bout en bout. C'était, je crois, la première fois que je le lisais en entier. Et j'ai été vraiment sidérée par ce personnage qui part aussi de très loin, c'est-à-dire qu'il est presque à la dérive, hein.
Oui,
il est un voleur,
c'est vrai.
Et puis il va avoir un sursaut.
Il va s'occuper de Cosette,
il va avoir un sursaut et là il va tomber du côté du bien. Et ça c'est quelque chose qui me fascine.
Tout à fait. Alors, il rentre avec sa fille Marigold, qui, elle, n'est pas du tout dans ce genre du bien. Elle s'en fiche un petit peu. Elle veut vivre la vie parisienne. Elle est assez légère. Et lui va être très intéressé par la reconstruction, par la revalorisation du moulin. Il va trouver, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, il va trouver beaucoup d'amitié autour de lui, des gens du coin qui vont être très présents pour lui.
Oui, il y a des personnages secondaires qui sont très forts, je crois.
Oui,
mais je crois que dans chacun de mes romans, je donne beaucoup de place aux personnages secondaires.
C'est vrai.
Parce qu'ils illuminent le récit, ils donnent de la force et de, et de la matière au récit.
Bien sûr.
Il y a ceux des bruits, donc les bruits, c'est la demeure familiale que,
oui,
que Joseph Beer va acheter.
Va acheter,
oui. Demeure. Et puis en bas, il y a le moulin qui est posé sur le lot et qui va faire vivre et dans laquelle il va installer ces gens-là. Quoi.
Ces gens, oui.
Voilà, et il va être très proche d'eux, très,
oui,
très proche.
Oui.
Peut-être parce qu'il se souvient de son enfance, qui était une enfance très, très pauvre. Hein,
oui.
Et il a envie de donner à ces gens très humbles une douceur de vivre
qu'il n'a pas connue.
Qu'il a voilà. obtenir au fil du temps.
Oui. Alors il y a une chose qui le tracasse, on raconte, on dira pas quoi parce que ça fait, je dirais c'est le squelette de cette saga, mais il ne sait pas comment parler à sa fille, il ne sait pas comment lui expliquer les choses parce que il a peur qu'elle ne comprenne pas et qu'elle ne lui pardonne pas.
Bah, Marie Gold est une jeune fille élevée dans la bonne société.
Oui.
Qui n'a jamais manqué de rien, qui a envie de s'amuser, qui aime rire, et qui va s'éprendre d'un peintre à Montmartre, de qui elle va avoir un enfant, et elle va rentrer avec cet enfant d'ailleurs. Et je trouve que Joseph Beer, là, il est heureux de cette naissance qui va illuminer les buis. Il n'est pas du tout dans,
c'est l'avenir.
Dans le reproche ou dans le...
Oui.
Il va aimer cet enfant, cette petite fille. Il va lui apprendre à vivre.
Alors
qu'il aurait pu renier sa fille. Hein,
bien
ce
sûr.
Temps-là,
bah, surtout hein, début du XXe siècle, oui, c'est sûr.
D'avoir la bénédiction du père, mais là, il agit avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité, je dirais.
Oui. Alors c'est une saga aussi qui, je le disais, dans le Lot, dans le Quercy, mais qui nous fait aussi voyager jusqu'en 1945. Comment vous avez construit cette histoire? Moi, j'ai eu le sentiment que dans ce livre, il y avait plusieurs livres, plusieurs facettes avec tous ces personnages. On le disait, les personnages principaux, les personnages secondaires, qui donnent toujours une force et une épaisseur aux personnages principaux. Mais il y a plusieurs histoires dans cette histoire, il y a plusieurs livres dans cette saga.
Oui, mais je crois que ça, c'est quelque chose qui m'est habituel. Hein. J'ai l'impression que par exemple, dans la dynastie des Weber, qui était une énorme saga sur un siècle, il y avait aussi deux histoires, deux familles. Et j'aime parce qu'il y a une ampleur, dans le siècle, il y a une ampleur dans l'histoire. Quand j'étais petite fille, je lisais surtout des romans historiques. J'adorais l'histoire. C'était avec la littérature, ce que je préférais. Mais l'histoire, c'est ma matière première.
Oui.
Et la saga, ça permet justement de faire vivre l'histoire à travers les personnages. C'est ça qui est intéressant dans la saga. C'est qu'on peut prendre comme jalon les grands événements historiques. Et là, j'ai la Première Guerre, j'ai la Seconde Guerre entre et j'ai la montée du nazisme, etc. Donc, disons que le XXe siècle se prête beaucoup à la saga.
C'est vrai. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on suit justement l'évolution des personnages, l'évolution du monde, de cette famille, au travers justement de 1900 à 1945. Hein, c'est 45 ans, mais 45 ans riches, qui ont changé les hommes et la face du monde aussi. Et ça, on s'en aperçoit dans la saga. Dans cette saga.
Oui, parce qu'il y a trois générations. Hein. Il y aura Joseph Beer, sa fille Marigold.
Oui. Et la petite fille. Et la petite fille. Oui.
Et puis la petite dernière. Et voilà. Donc, tout cela, ils agissent. C'est-à-dire, ils ne sont pas insensibles à la marche de l'histoire. Hein. Ils vont à Berlin, d'ailleurs.
Il
y a une partie allemande.
Allemande, tout à fait.
Dans cette famille, puisque Joseph Beer est né en Prusse orientale. Il est arrivé aux États-Unis à l'âge de 10 ans, mais il avait encore une famille là-bas. Donc il va y avoir des retrouvailles avec cette branche allemande au moment le plus délicat, c'est-à-dire au moment où la guerre va commencer. Et Valentine, Marigold et Valentine vont avoir un regard sur cette montée du fascisme.
Et
Valentine même va être subjuguée aussi par ce cousin allemand.
Tout à fait.
Ce cousin si proche du nouveau guide de l'Allemagne.
Elle risque gros
d'aller un peu trop loin.
Oui, c'est vrai. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le début d'un siècle. Hein, 1900, c'est le début d'un siècle. On a l'impression que tout est possible, tout est réalisable. Bien évidemment, les deux guerres vont un peu couper l'herbe sous le pied à ce siècle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça parle aussi d'immigration, entre guillemets, c'est-à-dire cet homme qui est parti, qui revient en France, qui a fait sa vie, et puis qui va acheter ce moulin. C'est toute l'évolution d'un homme dans un siècle où les choses ont été très vite aussi.
Oui, il cherche, je crois que Joseph Beer, il cherche surtout une terre libre. Bon, il a fait sa vie aux États-Unis, mais c'est pas sa ville, c'est pas
oui, c'est pas sa terre, c'est pas sa terre.
Il revient en Europe oui. Pour retrouver sa terre. Oui. Et puis, il s'installe dans le Quercy, enfin, Saint-Cyr-la-Popie qui est dans le Lot.
Oh, c'est très beau, c'est très beau, Saint-Cyr-la-Popie.
Ils sont passionnément amoureux de cette terre qui est une terre d'eau, de rivières, de moulins, qui est une terre magnifique.
Oui. De châteaux,
Oui, de châteaux, de vallées, il y a une douceur de vivre, hein. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah, je connais très bien, je connais très bien, oui, je connais très très bien. Oui.
C'est une terre où se dit que la paix est possible.
C'est vrai, ça sert à la Popie en plus avec ce village là où on monte avec ces vieilles maisons jaunes, ces toits en lauze, c'est vraiment un très beau village. Le Quercy, le Lot, de toute façon c'est très beau, le Périgord, la Dordogne, tous ces coins-là, c'est vrai qu'il y a une douceur de vie. Justement, ce que j'ai aimé aussi, dans l'histoire de Joseph par rapport à l'achat de cette maison et ce moulin, vous savez, ça m'a fait penser à cette herbe grasse et tendre, à ce soleil qui tombe sur le moulin, la rivière qui passe comme ça, à une forme de douceur de vivre. Et on se dit, en lisant le livre, on plonge dedans et on a besoin un petit peu de cette paix, de cette sérénité. Et avec Joseph, on partage ça, on partage cette paix, cette sérénité.
Oui, je pense que les temps sont durs. Hein. Bon, les temps ont souvent été durs, mais particulièrement aujourd'hui. Et que lire ce livre, d'abord, ça réveille la mémoire. Mais en même temps, ça permet de trouver une forme de douceur. Oui, je crois que c'est important d'avoir un endroit où vivre, un endroit, ne serait-ce que dans un livre.
C'est vrai.
Ne serait-ce que dans un roman.
Mais en même temps, on se dit aussi que la Première Guerre mondiale et la Seconde n'ont pas été faciles. Ça a été des moments très difficiles et dans la saga, on s'en apercevra. Et que finalement, notre époque, c'est sûr, est compliquée. Mais à côté, sans doute, avons-nous moins de difficultés. Alors, les difficultés sont différentes. Mais moi, je me suis dit, ça peut nous aider peut-être aussi à relativiser.
Oui, parce que quand on lit le livre, on se rend compte que les gens ont traversé des
fichus moments
absolument épouvantables. Hein, la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, elle va monter un hôpital dans Obi, et puis là, elle se rend compte à quel point les soldats ont souffert. Mmh. Et la Seconde Guerre mondiale, elle va aussi être confrontée à l'horreur absolue, puisqu'elle va y perdre son mari.
Oui.
Et donc, c'est vrai qu'on vit quand même, grâce à l'Europe, on vit quand même dans une ère de quiétude,
malgré tout. Oui. Eh bien, j'espère que ce qui va vous apporter un petit peu de quiétude, c'est cette pause musicale, et nous nous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission « Délivrez-vous pour ces deux ailes » avec Geneviève Sanger sur son dernier roman qui est une magnifique saga « Le bonheur est au fond des vallées » aux éditions Kalman Levy. Alors, c'est vrai qu'on disait, il y a plein de personnages, des personnages secondaires, des personnages importants, Joseph, sa fille, sa petite-fille, et puis tout au long de ses 45 ans. Moi, je me suis dit, Geneviève Sanger a-t-elle rencontré un homme ou des hommes, pas dans votre vie privée, c'est pas ce que je vous demande, mais dans le cadre de l'écriture pour écrire un Joseph Beer?
Je vous ai dit, je pense que Jean Valjean m'a inspiré.
Oui, mais hormis Jean Valjean, dans la vraie vie. Dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, si, peut-être. Mais je crois que les personnages sont de fiction m'ont toujours beaucoup. Toujours beaucoup inspirée.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai toujours été une grande lectrice et je sais que Déjà, j'ai un homme qui ressemble un peu à Joseph Beer dans un de mes romans précédents qui s'appelle Un cœur entre les deux rives, qui est l'histoire aussi d'un soldat qui revient après la Première Guerre.
Ouais.
Et je suis fascinée par la bonté, en fait, qu'elle soit chez un homme ou chez une femme. Bon, là, en l'occurrence, c'est chez un homme, parce que c'est lui qui a un pivot du récit. Oui. Mais elle est aussi en partie chez Marigold,
qui
a quand même un rôle exemplaire pendant la guerre.
Tout à fait. Et que l'on ne soupçonne pas d'ailleurs c'est ce rôle exemplaire, parce que au début on la trouve un petit peu volage, elle veut s'amuser, elle veut aller à Paris, tout ça, la campagne, ça l'enquiquine un petit peu, on va dire les choses, et finalement on va découvrir une femme entière, forte, et qui va se battre, et qui va affronter des situations bien difficiles.
Oui, parce qu'elle est confrontée au pire, et dans le pire, on se révèle.
Bien sûr.
Et ce qui se révèle, c'est qu'elle est la fille de Joseph Beer, c'est-à-dire de quelqu'un de solide, de planter solidement en terre, et qui a une certaine morale, qui a envie de faire les choses bien, c'est-à-dire de faire du bien.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'elle va faire venir cet homme qu'elle a connu en étant jeune fille, et qui va être aussi un des personnages principaux du roman, puisqu'il va devenir son mari.
Tout à fait. Alors, on sent aussi, au travers de tous ces romans, mais celui-là particulièrement, pour vous, le sens de la famille, c'est quelque chose de très important. Ça transpire dans cette histoire.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se transmettent, oui, entre parents, enfants, et là, c'est très fort, parce que la faute de Joseph Beer, elle va avoir des répercussions terribles sur la vie de sa fille, de sa petite-fille, et elles vont en être transformées, parce que quand elles vont découvrir cette enfance et ce péché, entre guillemets, cette faute originelle, elles vont aussi avoir envie de la réparer. Je pense que c'est humain.
Alors, on avait un peu l'habitude de vous voir écrire, parce que vous êtes originaire, je crois, d'Alsace, de l'Est de la France. Mais je disais, là, vous avez posé vos valises dans le Lot, dans le Quercy. C'est parce que vous êtes allé. Comment est venue l'idée de cette saga dont le moulin, cette verdure, cette sérénité, vous avez posé votre plume et vos feuilles de papier dans cette région. Vous êtes allé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui. J'y suis allée plusieurs fois, et moi aussi, comme Joseph Beer, je suis tombée sous le charme, parce que c'est un enchantement.
Ouais.
J'ai été moi aussi prise dans cet enchantement, et j'ai eu envie très rapidement d'écrire cet enchantement, et ce qui a donné la terre originelle, qui se passe à Cahors, et puis maintenant le bonheur est au fond des vallées, et puis il y en aura encore un. Suivant qui se passera aussi, qui se déroulera aussi dans le Quercy, enfin dans le Lot. Donc je suis aussi tombée sous le charme, comme Joseph Beer et comme beaucoup.
J'imagine. Alors j'imagine que cette saga vous a demandé beaucoup de documentation. Comment vous travaillez, Geneviève Sanger?
Écoutez, j'ai quand même au fil des années écrit beaucoup de sagas historiques. Donc j'ai déjà un fond documentaire
important
sur les deux guerres. Et puis, j'essaie de ne pas être trop didactique. J'essaie de faire passer l'histoire à travers des dialogues, à travers des situations. C'est pas assez documenté, certes, mais je ne pense pas que ce soit lourd.
Non, mais c'est très précis. C'est ce que j'ai apprécié, moi, cette précision.
Et cette précision, elle s'apprend au fur et à mesure de l'écriture.
Oui.
C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore une trentaine d'années, une vingtaine d'années, j'aurais pas été capable d'écrire des sagas de cette
ampleur. D'accord. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous avez planté le décor, il y a Joseph Beer qui rentre, il y a ce Lot et ce Quercy qui sont d'ailleurs des personnages à part entière. La région, là, cette région est un personnage, on a envie de l'embrasser, d'y aller, d'y courir. Comment vous travaillez? Est-ce que l'histoire se déroule au fur et à mesure, ou alors vous avez une sorte de brouillon et au fur et à mesure vous faites vivre vos personnages? Comment ça se passe?
Oui, j'ai plutôt une sorte de brouillon, une sorte de fil, c'est esquissé à grands traits, mais rien n'est précis. J'ai juste quelques images et puis des personnages. Bon, Joseph Beer, je savais qu'il avait réussi socialement aux États-Unis, qui revenait en Europe. Mais bon, je savais pas grand-chose de lui. Les personnages se font à travers l'écriture.
Bien sûr.
Et c'est ça qui est magique. C'est...
Vous les rencontrez parfois au fur et à mesure de l'écriture. Vous les découvrez.
Oui, c'est un peu comme dans la lecture. C'est ça qui fait l'enchantement de, c'est... de l'écriture aussi. C'est de voir ce qu'on découvre.
Oui, c'est vrai. Alors, on s'arrête en 1945. On le disait, il y a une période sur Berlin qui est très bien documentée, qui est très intéressante. On s'aperçoit de l'histoire, de la fascination de certains personnages pour d'autres qui sont moins fascinants, dirais-je. On s'arrête en 1945. Moi, je me suis dit, mais on aurait pu continuer.
Oui, certainement, parce que bon, après, il y a tout à reconstruire.
Et oui, et oui.
Mais bon, pour l'instant, pour l'instant, je suis passée à autre chose. Peut-être que j'y reviendrai, mais j'en suis pas sûre. J'ai l'impression que l'histoire, quand même, est terminée.
Oui, elle est bouclée. Elle est bouclée,
bon,
bien sûr.
Elle n'est jamais terminée.
Oui, on peut toujours continuer, bien sûr.
Il y a encore les bouillies existent encore. Le moulin du renard, on sent qu'il va revivre.
Oui, tout à fait.
Et donc, on peut toujours continuer.
Bien sûr.
On peut toujours.
Toujours. Ce qui est intéressant aussi dans le personnage de Joseph Beer, c'est que, il est parti, il a émigré, il est parti là-bas, il a fait sa vie et dirais-je sa fortune aux États-Unis. Il rentre et à une période où les gens partaient, alors les Anglais, les Irlandais partaient en Australie, lui il est parti en Amérique. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que ce personnage, il est entier. C'est-à-dire que on lui a quand même beaucoup beaucoup donné. Il a reçu beaucoup et il a envie de nouveau il a envie à son tour de partager, de faire le bien, de tout ce qu'il a pu recevoir, de les difficultés aussi. Il en a fait une force. Il veut le transmettre ça aux autres. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle image et on en avait bien besoin aussi de ça, du don de soi pour les autres.
Oui, parce qu'il a 60 ans, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un vieil homme.
Bah non, 60 ans, c'est jeune.
On a l'impression qu'il va retrouver une nouvelle jeunesse dans ce quartier. Et que c'est comme s'il recommençait, c'est comme s'il commençait une nouvelle vie.
Oui. Alors,
une nouvelle vie qui va être très différente de celle qu'il a vécue aux États-Unis.
Alors moi, j'ai fait une sorte... j'ai pris ça comme une parabole un petit peu. Alors après, chacun bien évidemment interprète la lecture et fait son propre scénario selon la façon dont on envisage les choses. Mais je me suis dit, moi, ce moulin, cette construction, cette envie de rebâtir, c'est une parabole, c'est-à-dire il reconstruit ou il construit de nouveau sa vie. Il y a une parabole entre établir, construire quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire, entre la pierre et l'homme.
Oui, et puis il y a la farine, hein, il y a le pain.
Et bien sûr.
C'est très symbolique.
Bien
parce
sûr,
que, bon,
tout à fait.
Il a un moulin de noix, bon, c'est une région de noix,
oui.
Mais il a surtout un moulin pour fabriquer de la farine.
Oui, tout
et
à fait.
Ce pain est très symbolique, parce que c'est le pain de vie, le pain qui permet de se nourrir, hein, de nourrir les habitants, et de continuer à rester dans cette vallée quand même un peu perdue. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce moulin. D'ailleurs, de toute façon, on est tous fascinés par les moulins.
Oui, oui.
Par l'eau qui coule, par les rivières.
C'est vrai.
L'eau, c'est le... Bon, si j'osais, je dirais que c'est le sel de la vie.
Mais c'est vrai.
Disons que c'est
vrai.
C'est quelque chose qui nous est absolument nécessaire.
Mais c'est très récurrent, d'ailleurs, hein, dans la plupart des pionniers, par exemple, si on prenait... Parce que moi, j'ai pensé à ça, j'ai lu il n'y a pas très longtemps l'histoire des pionniers 1860, irlandais et anglais, comme je le disais tout à l'heure, qui partaient en Australie. Joseph Beer m'a fait penser à eux, c'est-à-dire que dans le Quercy, il rentre, il devient un pionnier, c'est-à-dire qu'il installe de nouvelles choses, il y a ce moulin, la farine, le pain. Vous voyez, ce rythme de la vie, je me suis dit, c'est un pionnier, il revient... Voilà, ça m'a fait penser à ça.
Il y a ce dispensaire aussi, parce que il se rend compte que les gens du coin ne parviennent pas à se soigner. Véritablement, et puis et c'est comme ça que Marigold va se transformer en infirmière. Le fait de devenir infirmière, justement, ça va lui donner une profondeur qu'elle n'avait pas, parce qu'elle
Bien
a
sûr.
Aimé passionnément ce qu'elle fait.
Tout à fait. Et puis, c'est vrai que à partir de ce moment-là, on se rend compte, il fallait aussi qu'elle qu'elle fasse sa vie de jeune fille aussi, hein, qu'elle fasse sa vie de jeune fille, mais la vie va la rattraper aussi.
Oui, parce qu'elle va quand même connaître une grande douleur, hein,
oui.
Parce qu'elle va élever sa petite fille toute seule, et que ça devait pas être simple en ce temps-là.
Mmh. Mais les femmes, on s'aperçoit finalement que les femmes, je dirais, ben, en ce début du XXe siècle, et milieu du XXe siècle, ont pris une place importante. D'abord parce que les hommes sont partis à la guerre, il a fallu les remplacer. Donc, et puis je trouve que Joseph Beer donne une belle place aussi aux femmes de sa vie, dirais-je.
Oui, déjà commencer par sa fille et sa petite fille.
Bien sûr.
Peut-être parce qu'il s'est rendu compte que les femmes sont capables de grandes choses et qui leur permet justement de les accomplir.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
Il ne prend pas toute la place. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'avoir le pouvoir, d'avoir une emprise. Il a envie d'aimer.
Mm-hmm.
Je pense que c'est un homme qui a plein d'amour à donner et qui le donne d'ailleurs.
Oui. Mais vous faites aussi une belle place aux femmes, à l'histoire des femmes entre Marigold, sa fille. C'est une belle place aussi pour ces femmes-là, pour toutes les femmes du roman.
Oui.
Il y a de belles histoires.
Ce sont des femmes fortes, hein, mais les femmes sont souvent fortes.
Je
ne vous apprends rien.
Mais c'est, n'est-ce pas nous qui dirigeons le monde, de toute façon, ma chère Geneviève.
Disons que c'est notre élan de vie, peut-être, qui donne le tempo.
Probablement, oui. Alors,
soif de vie, ouais.
Alors,
je dirais.
C'est ça. Alors, j'imagine.
Il y a aussi dans le roman un méchant, hein. Faut pas dire
oui.
Ça non plus. Que
non,
le
oui, mais. Non, tout n'est pas bisounours. Tout n'est pas bisounours, mais ça, on laisse le soin de découvrir aux éditeurs.
Oui.
Alors, j'imagine qu'au fond d'un tiroir ou dans un carton ou même sur l'ordinateur, le prochain roman est déjà sur le métier, dirais-je.
En ce moment j'écris, il y en aura un autre bientôt l'année prochaine, mais
oui.
Bon, pour l'instant j'en parle pas encore.
Non, mais moi j'aime bien suivre ce que vous faites, donc voilà, c'était un petit peu pour savoir, pour me mettre l'eau à la bouche.
En février prochain, je pense, qui sortira en février prochain.
D'accord, bon bah écoutez, on patientera jusque là et comme ça on pourra lire les autres que l'on n'a pas forcément lus. Voilà. En tout cas, j'espère que chacun découvrira que le bonheur est au fond des vallées, aux éditions Kalman-Lévy. C'était un vrai bonheur de vous recevoir, enfin de vous parler, puisque j'avais lu plusieurs livres de vous. Et j'espère que on vous retrouvera avec plaisir dans un peu moins d'un an. Voilà.
Ben, merci beaucoup à vous.
Merci. Prenez soin de vous. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, Le bonheur est au fond des vallées, aux éditions Kalman-Lévy. Merci et à très bientôt.
Allez, au revoir.
Au revoir. Quant à nous, je vous souhaite de nouveau une belle lecture. Je vous enjoins vraiment de lire cette belle saga de Geneviève Sanger. Et puis, je vous retrouverai dans une semaine pour d'autres aventures. Je tiens à vous préciser que le nouveau Bernard Minier est sorti ou va sortir. Donc, nous nous retrouverons dans quelques semaines avec une interview de ce cher Bernard Minier. Merci, à très bientôt. Au revoir.